Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Pouvez-vous définir correctement le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Si vous compulsez diverses encyclopédies bibliques, vous y trouverez des explications différentes. Voici ce que dit celle qui est parue aux éditions Bethel. Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité divine, consubstantielle aux deux autres et leur égal en toutes choses. Ce qui est consubstantiel est, selon le petit Robert, ce qui est coexistant, inséparable. Alors, chaque fois qu'il est question du Père et du Fils, nous devrions retrouver cette Trinité, ces trois personnages ou trois hypostases, comme dans les descriptions du trône de Dieu. Mais ce n'est pas le cas. N'est-il pas étrange de constater que le mot « Trinité » ne figure nulle part dans la Bible? Or, le dogme de la Trinité ou de la personnification du Saint-Esprit est une doctrine fondamentale pour beaucoup de religions chrétiennes. Mais cette affirmation résiste-t-elle à l'examen de la parole de Dieu? Dans le Grand Larousse encyclopédique, il est écrit « Le premier concile de Nicée en 325 donne une définition précise de la Trinité. » Quant au grand dictionnaire universel de Pierre Larousse, alors qu'il se réfère aux nombreuses opinions essayant d'expliquer le Saint-Esprit, on peut lire « Cette diversité d'opinions prouve surabondamment qu'au IIIe siècle, l'Église n'avait pas trouvé encore la formule du dogme du Saint-Esprit. Le Concile de Nicée se contente de proclamer la croyance au Saint-Esprit sans le définir autrement, ce qui permet à la spéculation de s'exercer en toute liberté. Certains théologiens niaient qu'il fût une personne et le regardaient comme une force ou une vertu, et que d'autres évitaient de se prononcer sur cette question, ne la trouvant pas suffisamment éclaircie dans l'Écriture sainte. Un dogme, c'est une opinion émise comme une certitude, mais pourquoi ne pas s'en remettre à la parole de Dieu pour définir ce qu'est le Saint-Esprit ? Je lis encore. L'Église mettra plusieurs siècles à savoir dire exactement ce qu'elle croit de Dieu et surtout de Jésus. Ce que l'Église croit, qu'importe, ce qui compte, c'est ce que la Bible affirme. Ne trouvez-vous pas étrange qu'il faille attendre tout ce temps pour affirmer l'existence de trois personnes distinctes ainsi que l'annonce de la divinité de l'Esprit? Si le Christ devait conduire ses disciples dans toute la vérité, pourquoi l'existence de trois personnes distinctes n'est-elle pas mentionnée dans ses enseignements? Ce que nous devons croire n'est-il pas écrit d'une manière définitive et catégorique dans la parole de Dieu? Certains disent, puisque le Saint-Esprit parle, conseille, console, guide, commente, interdit, il ne peut être qu'une personne. Examinons la chose. Si vous avez suivi le catéchisme ou le cours d'histoire sainte à l'école du dimanche, avez-vous accepté cette croyance sans la vérifier? Que vous a-t-on enseigné? J'ai compulsé le catéchisme utilisé dans tous les diocèses de Belgique. J'y ai découvert ce qui suit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité. Il y a trois personnes en Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le mystère de la Sainte Trinité est le mystère d'un seul Dieu en trois personnes. Ce livre ajoute « Un mystère est une vérité que nous ne pouvons pas trouver par notre seule raison, ni comprendre parfaitement, même après que Dieu l'a révélé. » Selon cette définition, l'homme serait incapable de comprendre ce que Dieu lui révèle. Pourtant, le Christ a affirmé le contraire. Il a dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Si le Saint-Esprit doit conduire dans toute la vérité, il ne peut y avoir de mystère, sauf pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul n'hésite pas à écrire aux saints qui sont à Corinthe, « Voici, je vous dis un mystère. » Il poursuit en leur expliquant ce qui se passera lorsque la septième et dernière trompette sonnera. André Chouraki, réputé pour sa traduction de la Bible la plus proche du texte original, traduit les paroles du Christ au sujet du Consolateur comme suit. « Mais quand celui-ci viendra, lui, le souffle de vérité, il vous fera cheminer dans la vérité tout entière. » Avant son ascension, Jésus déclara à ses disciples, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. » André Chouraki traduit ce passage comme ceci. « Mais vous recevrez un pouvoir du souffle sacré à sa venue sur vous. » Monsieur Chouraki, vous le remarquerez, désigne l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit par souffle sacré pour préserver la signification exacte et littérale des mots originaux. Puisque le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité, dans la vérité entière, nous pouvons nous demander pourquoi les religions chrétiennes, ayant tant de croyances et de pratiques différentes, sont si nombreuses, alors que la parole de Dieu est immuable et qu'elle ne peut être modifiée. Pourquoi tant d'observances, tant de cultes différents, alors que toutes prétendent se soumettre aux Écritures et être conduites par le Saint-Esprit de Dieu? Une telle interrogation est légitime. C'est au second verset du livre de la Genèse que l'on découvre l'Esprit de Dieu. Moïse relate ce qui suit. « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Dans sa version, André Chouraki traduit « l'Esprit de Dieu » par le souffle d'Élohim. Ce mot « esprit » est traduit de l'hébreu « ruach » signifiant un souffle, une brise, une exhalation émanant d'une personne. Il peut s'agir encore d'un vent violent ou non, mais ce peut être aussi la pensée, l'intelligence, le caractère, la personnalité. La nouvelle encyclopédie catholique Théo indique « esprit veut dire souffle, vent » et évoque quelque chose d'insaisissable. L'Esprit de Dieu est qualifié de saint, tout comme le sont son bras, son nom, sa parole, car Dieu est saint par nature. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Son bras, sa droite et son bras lui sont venus en aide. Son nom, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Sa parole, car il se souvient de sa parole sainte. Dieu est saint par nature, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Dans le Nouveau Testament, le mot « esprit » est traduit du grec « pneuma ». Le livre des Actes décrit explicitement le Saint-Esprit qui entra dans les 120 le jour de la Pentecôte. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. André Chouraki écrit « Et c'est tout d'un coup un bruit du ciel, comme la venue d'un souffle violent. Leur apparaissent des langues comme de feu, elles se partagent et se posent une sur chacun d'eux. Ils sont tous remplis du souffle sacré. » La Bible distingue l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme. L'apôtre Paul mentionne ces deux esprits dans un même passage. « Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » André Chouraki traduit ce passage comme suit. « Oui, le souffle scrute tout, et même les profondeurs d'Élohim. Oui, quel homme sait ce qui est en l'homme, sinon le souffle de l'homme en lui-même? Ainsi, de ce qui est en Élohim, nul ne le pénètre, sinon le souffle d'Élohim. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas reçu le souffle de l'univers, mais le souffle qui vient d'Élohim, afin de savoir ce qu'Élohim, dans son chérissement, nous a donné. » Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul utilise le mot grec « pneuma » tant pour l'Esprit de Dieu que pour l'Esprit de l'homme. Qui connaît les choses de l'homme, c'est-à-dire ses pensées secrètes? Cela n'est possible que par l'Esprit qui est dans chaque être humain, par ses pensées, ses facultés, son intellect. Chaque être humain connaît ses propres pensées, ce qu'il a dans le cœur, mais il ne connaît pas ce qui est dans le cœur de son voisin, même pas dans celui de son conjoint. Cependant, si vous communiquez vos pensées à une personne, vous lui permettez de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre. C'est ainsi que, si quelqu'un se rapproche de Dieu, s'il décide de lui obéir, alors Dieu peut mettre son Esprit Saint à la disposition de cette personne, pour qu'elle en arrive à mieux le connaître et à se soumettre ainsi à toute sa volonté. C'est alors qu'elle reçoit pleinement l'Esprit qui émane de Dieu et qu'elle peut comprendre ses pensées, tout ce que les saintes Écritures portent à sa connaissance. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut comprendre la vérité que Dieu révèle d'une manière si précise, si tranchante dans les Écritures. Avant de recevoir le Saint-Esprit en eux, les disciples comprirent peu de choses, mais à la Pentecôte, ils reçurent cette puissance, cette force, cette pensée émanant de Dieu, leur compréhension s'accrut et leur comportement s'en trouva métamorphosé. L'Esprit de l'homme lui permet de dominer les animaux et d'exceller dans de nombreux domaines. Dieu nous dit que cet esprit retourne à lui lorsque l'homme meurt. L'Esprit de l'homme, c'est le caractère, le discernement, l'intelligence. Il est traduit de l'hébreu « ruach », qu'il ne faut surtout pas confondre avec l'âme, qui est traduite du mot hébreu « nefesh ». L'Ecclésiaste exhorte le jeune homme à se souvenir de son Créateur. Quand doit-il s'en souvenir ? Avant que la poussière, avant que l'homme, le corps physique de l'homme, retourne à la terre comme elle y était, et que l'Esprit, Ruach, retourne à Dieu qui l'a donné. C'est donc le caractère qui retourne vers Dieu, son discernement, son intelligence. Le roi David a écrit « Où irai-je loin de ton esprit, Ruach, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Ce passage nous enseigne que l'Esprit de Dieu, sa pensée est partout. Où que nous allions, l'Esprit de Dieu est là, omniprésent. Il nous fait bien comprendre que le Saint-Esprit n'est pas un être divin, un personnage membre de la famille divine. En examinant les Écritures, vous constaterez que l'homme est formé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu, comme l'Écriture le révèle, a un corps, une tête, deux bras, deux jambes, et ce n'est donc pas lui qui est partout. Il l'est par l'intermédiaire de son esprit, de sa pensée. Quand l'heure est à la décision, les deux seuls membres de la famille divine se concertent, et l'Esprit Saint, qui est leur pensée, leur puissance agissante, accomplit ce qui a été ordonné. Elle exécute leur volonté. C'est ainsi que le monde a été formé par la parole de Dieu, par les ordres donnés par le Très-Haut et par l'Éternel. C'est encore ainsi que la famille divine remit de l'ordre sur cette terre, après qu'elle fut devenue informe et vide. Quel que soit l'endroit, l'Esprit de Dieu s'y trouve. C'est grâce à lui que Dieu maintient l'univers ainsi que toutes les lois qui ont été établies dès le début de la création. Le Saint-Esprit est l'agent, la force, la puissance qui accomplit la volonté de Dieu. Ce n'est nullement une personne. Le Saint-Esprit est sa volonté. Dieu veut quelque chose, et par la puissance de sa volonté, ce qu'il veut s'accomplit quand et où il le veut. La semaine prochaine, nous verrons divers passages bibliques prouvant que le Saint-Esprit est bien la pensée de Dieu, sa puissance qui, en se liant à l'Esprit de l'homme, lui permet de comprendre les Écritures et de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.